Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse, et je suis aimé des clients.
En ligne avec nous pour évoquer la mémoire de Charles Aznavour, mon ancienne consoeur et collègue, Hélène Azéra, qui a longtemps officié pour notre bonheur sur l'antenne de France Culture. Et une information, donc je répète, les voix nues que vous avez enregistrées, Hélène, avec Charles Aznavour, c'était en 2005, sont rediffusées toute cette semaine sur notre antenne à 20h. Hélène Azéra, c'est vous qui avez choisi cette chanson, dont on vient d'entendre un extrait, La salle et la terrasse. Pourquoi celle-ci parmi les... Alors les chiffres varient, hein, 1000, 1200, 1400 chansons de Charles Aznavour, Hélène?
Oui, énormément, je pourrais pas vous dire le nombre. Je l'ai choisi, j'aime beaucoup les grands auteurs, et Aznavour est un grand auteur, mais qui sont capables d'aller piocher chez les autres. Et il s'est quand même servi, pas chez n'importe quel auteur.
Chez Bernard Dimet.
Et j'en avais parlé avec lui, et il m'avait dit, vous savez, ça a pas été un grand succès. Il dit, mais par contre, chaque année, ça s'est vendu, et ça s'est toujours vendu. Vous voyez, il y a une espèce de vengeance.
Alors cette voix si célèbre de Charles Aznavour qu'on vient d'entendre au disque, comme quelques centaines de milliers de personnes, j'ai eu la chance de l'entendre en concert, et ça, c'était une expérience quand même assez troublante que de l'entendre Charles Aznavour sur scène. Hélène Azéra, troublante pour vous aussi?
Ah oui, complètement, parce que c'est le musical à l'ancienne, avec où les gestes sont presque aussi importants que la chanson, c'est cette chose-là.
Et puis, voilà, des accents en particulier dans sa voix, quelque chose qui vient peut-être d'ailleurs, mais on ne sait pas trop de quel ailleurs avec lui.
Oui, ben, je ne sais pas. Moi, j'ai un souvenir de lui au Francophonie de La Rochelle, où d'abord, il y avait très peu de musiciens sur scène. Il y avait 5-6 musiciens sur scène. Et là, bon, de temps en temps, il avait des montées où il faisait des improvisations. Et ben, l'improvisation, elle était un peu orientale. Hein. Il y avait sa fibre arménienne qui remontait. Moi, je pense que c'était le chanteur préféré des immigrés en France. L'Arménie, c'est un peu l'Orient. Hein.
Mais à propos d'Orient et à propos des différents horizons, il y a cette dimension quand même internationale de Charles Aznavour, Hélène Azéra, aussi bien pour la multitude de langues dans lesquelles lui il a chanté que dans la quantité invraisemblable de pays dans lesquels il a donné des concerts. C'est vraiment tout autour du monde, Charles Aznavour.
Bon, il y a aussi le fait chez lui, on parlait 4 ou 5 langues différentes, puisque son père était un Arménien de Géorgie, et il parlait aussi le géorgien. Et les gens qui ont été élevés dans plusieurs langues dès le début, ils apprennent les langues d'une grande facilité. Et donc, Aznavour disait... Je ne suis pas dans la case chanteur français quand je suis en Italie. Je suis dans la case italienne parce que je chante aussi en italien. Vous voyez, il chantait pareil en anglais. Il chantait dans énormément de langues.
Puis il y avait cette chose ancrée chez lui depuis très longtemps, on le lit dans les différents témoignages et dans tout ce qu'il a pu dire. L'idée d'être numéro 1 en France, c'était bien, mais enfin c'était quand même pas grand-chose pour lui. Il voulait être premier partout, et d'ailleurs il a entrepris pour ses 90 ans une tournée mondiale qui est passée par quantité de pays, mais c'était très important pour lui que de chanter partout et d'être acclamé partout.
Oui, mais il aimait bien aussi être premier en Arménie. Hein.
Premier partout.
C'est aussi plaisir, hein, de temps en temps. Et des Arméniens, il y en a partout.
Mais ça suffit pas pour remplir les salles qu'il a remplies tout au long de sa carrière. Peut-être pour dire encore un mot, parce qu'on va vous entendre, et c'est tant mieux toute cette semaine, en entretien avec Charles Aznavour à 20h sur notre antenne, mais il faut rappeler que Charles Aznavour a été consacré chanteur de variété le plus important du 20e siècle. Ça, c'est un classement CNN Time. Ça veut dire devant Bob Dylan, devant Frank Sinatra, devant Elvis Presley. Vous savez ce que ça lui a fait d'apprendre une nouvelle comme celle-ci, d'être à ce point reconnu.
La chose dont j'avais parlé, donc il avait fait Carnegie Hall. Et je lui dis, mais comment vous avez fait Carnegie Hall? Il dit, mais je me suis payé Carnegie Hall. Oui, c'est une leçon quand même.
Mais après, il faut le remplir.
Et j'ai dit, vous savez, Bob Dylan a dit, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue sur scène. Et il dit, ben, il pouvait le dire, il a tout piqué.
Bon, on en apprend. Et il était comme ça, il pouvait avoir la dent un peu dure, Charles Aznavour, dans vos entretiens on et off.
Oui, il était un peu âpre. Il était un peu âpre. C'est drôle, j'avais parlé avec Miossec, et Miossec, alors vous voyez, Miossec s'intéressait à Aznavour, elle dit, on a l'impression qu'il sera jamais content. Il en veut toujours plus.
Jusqu'au bout, il a donné des concerts.
Il a manqué dans sa jeunesse et ensuite il en a voulu toujours plus.
Il sait beaucoup.
Moi, je trouve que c'est c'est un immense parolier, un immense musicien, un immense chanteur, un immense mime. Il a vraiment fait beaucoup, hein. Il y a pas à dire.
Bien, cette conversation, elle va se continuer donc toute cette semaine, voilà. Elena Zera, entre...
Une petite une, c'est Cocteau qui disait « Il a rendu le désespoir sympathique
». On reconnaît bien là le génie des formules de Cocteau. Merci beaucoup, Elena Zera, pour votre témoignage.
Merci.
On vous retrouve dans...
Merci d'avoir fait appel à moi.
Oh ben, c'est la moindre des choses. Et on vous retrouve dans 49 minutes, si tout va bien, sur notre antenne, avec Charles Aznavour, puisque France Culture rediffuse toute cette semaine l'émission À Voix Nue, que vous avez enregistrée avec lui en 2005. Merci beaucoup, Elena Zera. Et tout de suite, la dispute.
Un petit blanc. Oui, monsieur, ça vient. Oui, je vous le donne, votre petit coup de torchon sur la table. Un jeu de 32 cartes, voilà, tout de suite. 3 demi, 3 et 100 faux cols. Un jambon-beurre en terrasse. 2 crèmes à la une. Et 2. Tenez. Payez vos garçons. Merci.
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierre Ecmont, signée réalisation Thomas Beau. Il y a notre affiche, le portrait Anne-Thérèse Anne-Kersmaker dans le cadre du Festival d'automne. The Idiot de Saburo Teshigawara au Théâtre de la Nationale de la Danse de Chaillot. Là aussi, Festival d'automne. Ligne de crête de Maggie Marin jusqu'au 6 octobre au Théâtre des Abbesses. Pour en parler avec moi ce soir, Anna Sigalevitch, Philippe Noisette et Florian Guettet qui a gagné le droit ce soir d'exprimer son coup de cœur. Ce sera pour Kogemansi d'Ali Moini. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour les ateliers du goût Slow Food au Food Forum de Nantes les 6 et 7 octobre. Nous ouvrons donc cette dispute danse aujourd'hui avec le portrait que le Festival d'automne dédie cette année à l'immense chorégraphe flamande Anne-Thérèse de Kersmaeker. Formidable occasion de revenir sur 35 années intenses de création avec pas moins de 11 pièces différentes programmées à Paris et dans toute l'Île-de-France. Les musiques choisies pour ces spectacles montrent bien aussi, c'est une façon d'y entrer, l'évolution et l'ouverture de sa palette formelle, depuis le minimalisme à la Steve Reich jusqu'au moderniste de Ligeti, en passant par Bach, Coltrane et quelques autres. Une chorégraphe qui poursuit une des œuvres sans doute les plus rigoureuses qui soit. toi. Nous allons évidemment parler d'Anne-Thérèse de Kersmaeker. Anne-Thérèse de Kersmaeker, 11 pièces différentes. Alors évidemment, la difficulté face à une offre pareille dans notre émission, mais surtout pour nos auditrices et auditeurs, c'est se dire, mais qu'est-ce qu'il faut aller voir? Et surtout, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu de spectacle de cette chorégraphe, lequel de ces spectacles, laquelle de ces pièces serait à voir en priorité? C'est donc la question, la colle qu'on vous pose ce soir. C'est Anna Segalevitch qui commence. Par quoi, justement, faudrait-il commencer?
Alors, par quoi faudrait-il commencer? Il y a des œuvres très importantes qui ont déjà été données, là, oui, qui sont vraiment essentielles.
Mais
qui sont,
on a programmé l'émission trop tard,
mais
ça...
Non, pas du tout. Mais
ça
bon,
commence
bah, après,
par un reproche.
Pardon, mais je pense que c'est vraiment très très important, à la fois Faze et Rosas, qui sont vraiment des œuvres fondatrices de tout son langage. Faze, pour sa première collaboration avec Stihirach, et puis la façon dont elle a développé ce langage, la féminité, les gestes du quotidien, et où on comprend vraiment ce rapport intrinsèquement lié entre la musique et la chorégraphie, la façon dont elle explore comme ça les liens entre eux, de façon, enfin, pour moi, c'est vraiment la chorégraphe qui a un rapport à la musique le plus passionnant, par exemple dans Faze. Donc où il y a quatre pièces, on a à la fois des moments où c'est donc violon phase avec le violon, piano phase avec le piano. On a aussi de clapping music où c'est juste des mains qui tapent l'une dans l'autre, un duo de clapement de mains avec une chorégraphie extrêmement simple et précise, hein, c'est-à-dire jambes devant posées. Bon, voilà. Mais où on comprend beaucoup de choses. Et je dirais que pour moi, donc dans les pièces à venir,
oui,
à
si
découvrir,
vous pouvez bien répondre
voilà,
à ma question,
excusez-moi,
Anna.
Je dirais que Rain est une pièce que je trouve très 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 importante ces dernières années. Voilà, dans son écriture, que moi j'ai vue plusieurs fois, mais j'ai toujours vu avec les danseurs de l'Opéra de Paris, parce qu'elle a transmis la chorégraphie il y a quelques années là-bas. C'est une pièce qui a été créée en 2001. Pour percussion, piano, violon, violoncelle et marimba. C'est sur la musique de Steve Reich aussi, pour 18 musiciens, où il y a une phrase matrice qui est une phrase dite féminine, puis une phrase dite masculine, bon, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, qui se régénère en permanence, qui avance, qui se rétrograde, qui repart au point de départ et puis hop, c'est reparti. Voilà, il y a à la fois un cœur qui se construit et puis en même temps, chacun a son parcours dans la pièce, son parcours individuel. C'est une pièce qui est très intéressante parce que je trouve qu'elle montre à quel point la danse d'Anne-Thérèse de Kersmaeker est d'une rigueur totale, une rigueur et d'une intensité très forte pour les danseurs, et en même temps qui nécessite beaucoup de lâcher prise. C'est-à-dire que les danseurs doivent être totalement à l'écoute les uns des autres, hein, les mouvements se passent dans cette pièce, et en même temps, je pense que si on n'est pas hyper concentré, ça ne fonctionne pas du tout, et en même temps, si on est volontariste, ça ne fonctionne pas non plus. Donc cette notion qui est très particulière chez elle, à la fois de grande excitation mentale, mais en même temps qui passe par quelque chose d'extrêmement sensible. C'est les deux.
Rain qui sera donné les 6, 7 et 8 décembre à la grande halle de la Villette, avec le théâtre de la ville, dans le cadre du Festival d'automne. Je reviendrai vers vous, Anna. Florian Guettet, réponse à ma question. Qu'allez voir dans ce qui reste à voir, et pourquoi est-ce qu'il faut aller voir finalement des spectacles d'Anne-Thérèse de Kersmaeker?
Alors, ça aurait été plus facile si vous m'avez posé la question lequel il ne faut pas aller voir.
Ah, bah c'est pas mal, tiens, dites-moi.
Bah, moi, il y en a un qui me gêne, c'est La Nuit Transfigurée, qui a été en deux versions. Là, on présente la version de 2014 qui a été présentée au Théâtre de la Ville, et qui est une danse, alors c'est un duo, hein, c'est un duo amoureux, pris sur un livret qu'avait lui repris Schoenberg à son ami poète, et qui est une danse hyper expressive, aux limites du pathos, qui ne ressemble pas vraiment à ce que fait Kersmaeker d'habitude. Alors là, c'est vrai que vous disiez, Anna, à juste titre, que c'était l'alliance d'une grande rigueur et de quelque chose de plus émotif qui voilà, en appelait à un certain lâcher-prise. Là, je crois que le lâcher-prise est un petit peu trop appuyé pour que ça fonctionne. Mais on voit quand même ce qui l'a intéressé à ce moment-là chez elle. Alors déjà, effectivement, c'est une pièce qui est un peu problématique parce que elle met en lumière son rapport peut-être lui-même problématique au romantisme, qui est en fait la période qu'elle a le plus contournée, évacuée, et puis elle est revenue ensuite dessus, notamment à partir de 2009, notamment avec la pièce avec Jérôme Bell, Très Hapschid, qui reprenait en fait le chant de la terre de Mahler qu'elle avait déjà expérimenté dans Keeping Still, une pièce qu'elle avait réalisée avec Anne-Véronica Janssens. Et elle a toujours pris voilà le romantisme avec des pincettes en disant finalement au fond moi je suis une grande romantique et si j'assume ça ben je vais me laisser emporter par ça.
Et le fait est
que je trouve cette pièce là elle s'est laissée un petit peu trop emporter. Alors c'est pour ça qu'elle va sur Schoenberg, qu'elle va sur Mahler, qu'elle va vraiment sur la fin en fait du romantisme, c'est-à-dire que le romantisme un peu déclinant, hein, pas l'apogée du romantisme, parce que ça la préserve un petit peu de ces emportements là. J'ai trouvé peut-être que dans La Nuit Transfigurée c'était le mauvais essai pour ça.
Alors je garde votre recommandation pour dans un instant. Philippe Noiset, pourquoi faut-il aller voir un spectacle d'Anne-Thérèse de Kersmaeker et lequel en particulier pour vous dans ce qui reste à venir?
Alors, puisqu'on parle beaucoup de musique, hein, c'est difficile de ne pas parler de musique en évoquant Anne-Thérèse de Kersmaeker, qui à l'époque d'ailleurs présentait ses spectacles comme des concerts de danse. Il faut évidemment passer par Bach, puisque c'est peut-être le compositeur avec lequel elle a le plus d'affinité, je ne sais pas, mais en tout cas un dialogue constant et fécond. Elle dit que pour elle, la musique de Bach porte le mouvement comme nul autre. J'ai eu la chance de voir cet été une création qui n'est pas la dernière création, puisque entre-temps elle a encore créé une nouvelle pièce. Elle travaille énormément. Donc une pièce de 2017. Mitten wir im Lebensinn, donc sur les suites pour violoncelle de Bach, avec un musicien assez exceptionnel. Hein. C'est plutôt la chance qu'Anne-Thérèse de Kersmaeker de pouvoir travailler avec des musiciens tels Jean Guillaume Queyras. Une pièce assez complexe, très simple dans la présence, puisqu'il n'y a que 5 danseurs. Ce violoncelliste, c'est vraiment ce qu'aime Anne-Thérèse, à savoir dépouiller au maximum avec une musique qui est quand même, comme elle le dit, à la fois entre l'abstraction et l'incarnation. C'est une pièce qu'elle devrait danser. Je dis qu'elle devrait parce qu'elle s'est blessée cet été, donc elle est visiblement à nouveau sur pied. Je l'ai vue danser avec son assistante qui a repris le rôle au pied levé. Une pièce assez manifeste, j'ai envie de dire, de ce que veut faire Anne-Thérèse de Kersmaeker aujourd'hui. Simplement pour revenir sur l'idée du portrait que je trouve.
Cette pièce-là, donc, ce sera dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, samedi 17, dimanche 18, lundi 19 novembre.
Qui est une sorte de défi, hein.
C'est pareil, quand même.
Simplement puisqu'on parle du musicien, pour dire comment le musicien est mis en scène, si je puis dire. En fait, tout simplement, il commence face au public, et à chaque suite différente, il fait un tour, demi-tour, donc il est après de dos, il a deux profils. Et à chaque fois, ces petits déplacements, ces petits jeux, évidemment, renforcent le jeu de regard avec les danseurs. Et c'est ce qui est très intéressant pour le public, c'est de voir comment cela fonctionne entre la troupe, qui est assez resserrée, et le musicien. C'est vraiment un moment assez exceptionnel. C'est 2 heures de danse, 2 heures de musique. Je pense, Anna parlait de justement peut-être de la concentration qu'on demande certains spectacles d'Anne-Thérèse. Cela demande une vraie écoute. Et si on se laisse aller à cela, si on se laisse aller à ce spectacle, à ce concert de danse, on en sort vraiment transformé. Hein. C'est pas La Nuit Transfigurée, c'est le spectateur transfiguré. Vraiment, ça vous porte très très haut. C'est un moment un peu particulier. J'ai hâte de le revoir.
Vous donnez très très envie, Philippe
Noiset. Mais c'est une grande pièce d'Anne-Thérèse de Kersmaeker.
Alors, recommandation positive, Florian Guettet.
Vortex Emporum, évidemment. Vortex Emporum.
Évidemment, pourquoi?
Parce que, en fait, pour deux raisons particulières. D'abord, Griset, qui est peut-être à côté de Bach, l'autre compositeur qui est très important, un des autres compositeurs qui est très important dans le panthéon musical d'Anne-Thérèse de Kersmaeker. C'est une pièce qu'elle dit elle-même majeure. C'est une pièce, donc c'est un chef-d'œuvre de musique spectrale, hein, donc vraiment de musique savante du XXe. Un spectacle très ambitieux, et puis surtout qui réalise pour la première fois de façon aussi intime, l'alliance entre le corps du musicien et le corps du danseur, puisqu'il y a un jeu de correspondance entre les mouvements des musiciens en train d'interpréter la musique.
C'est l'ensemble Ictus, en l'occurrence.
Exactement. Et les interprètes sur scène qui donc ont pour chorégraphie la trame véritablement des gestes d'interprétation des musiciens. Donc elle avait commencé déjà avec Bartok à mettre les musiciens sur scène. On sait que c'est quelque chose qu'elle a à cœur, mais jamais elle n'aura réalisé cette alliance-là. C'est une œuvre donc déjà musicale absolument prodigieuse, mais ce qu'en fait Anne-Thérèse de Kersmaeker est au moins à la hauteur de l'œuvre première, avec voilà ces grandes envolées. Alors c'est le vortex, hein, c'est vraiment la circularité, l'emportement, c'est cette sorte de grande vague, un peu comme Rain. Hein, moi c'est vraiment des pièces que je mets sur un pied d'égalité dans les grandes pièces d'Anne-Thérèse de Kersmaeker après les années 2000, qui renouvelle en partie son vocabulaire de base, sa géométrie, cette géométrie naturaliste hein, qu'elle essaye de saisir et qu'elle n'a pas fini d'épuiser.
Vortex Temporum, ce sera du 22, 23 et 24 novembre à la MC 93 de Bobigny. Le spectacle qui vous plairait le moins, vous avez regardé Anna Segalevitch et Philippe Noisette?
Alors non, parce que moi dans le choix été fait, ouais, tout me va, notamment il y a un spectacle que j'ai pas vu qui est Quartet.
Ah oui, avec ça fait très très envie.
Voilà, ça donne très 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 envie.
Il faut rappeler que Yolande de Kersmaeker, qui est membre fondatrice et extraordinaire comédienne de Tégestan, est la sœur d'Anne-Thérèse de Kersmaeker et qu'ils ont collaboré.
Mais là, ce sera avec Franck Vercruissen et Cynthia Leny, je crois.
Donc c'est le quartet de Heiner Müller, mais aussi une prolongation de la danse. Par la danse?
Oui, je crois.
C'est mystérieux.
Je
sais pas. Vous l'avez vu, Florian?
Moi, je l'ai vu en vidéo. J'ai la chance d'écrire dessus, donc on m'a donné une captation. Donc c'est un duo. C'est la première fois, où moi je voyais Anne-Thérèse de Kersmaeker utiliser la techno. Donc c'est assez, particulier, puisque donc il y a cette danse-là. Alors il y a un comédien qui lui ne danse pas, hein, qui est plutôt dans le mouvement, et une comédienne.
Une danseuse,
puisque c'est Tégestan et Rosas. Moi, je suis très, très, très impatient également de voir ça. De le voir en vrai. D'autant que ça a aussi le mérite d'appuyer sur une dimension d'Anne-Thérèse de Kersmaeker qu'on a tendance à sous-évaluer, c'est son rapport au théâtre. Parce que même s'il y a toujours un problème quand elle utilise les mots, en revanche, il faut se rappeler que son tout premier solo, qui s'appelait H, qu'elle avait fait chez Moudra, l'école de Béjart, mettait déjà en scène un comédien et une interprète, même s'il n'y avait pas de mots. Donc le théâtre est toujours là, et elle avait toujours dit, si j'avais pas été prise à Moudra à 18 ans, j'aurais fini dans le théâtre. Donc
Quartet, c'est une pièce de 99, hein, donc c'est-à-dire que ça fait longtemps, et ce sera donné 28, 29, 30 novembre et samedi 1er décembre au Centre Pompidou. Cette fois, vous voyez qu'il y a plein de lieux. Le dernier conseil peut-être négatif, ou tout vous va aussi, Philippe Noisette?
J'ai envie de dire que tout me va, mais en même temps, je dirais peut-être Rain, pour une simple raison. J'ai beaucoup vu cette pièce. Que j'aime vraiment particulièrement.
Ah oui, ça c'est parce que vous l'avez vu beaucoup. C'est ce qu'on dit pour gens qui l'ont pas vu.
Non, alors laissez-moi finir, vous allez voir. Et il faut simplement dire aussi que c'est en partie pour Rain que Anne-Thérèse a créé une compagnie bis, une compagnie presque de répertoire, qui va présenter justement des ballets, des pièces comme Rain. Donc évidemment, il faut voir Rain. Peut-être qu'en fait, j'irai quand même.
Pour le plaisir. Bon, ce portrait, en tout cas, magnifique occasion de se plonger ou replonger dans l'univers de la création d'Anne-Thérèse de Kersmaeker jusqu'au 31 décembre dans le cadre évidemment du Festival d'automne à Paris. Vous retrouverez toutes les dates sur le site du dit festival. À suivre dans la dispute, Festival d'automne encore avec des idiotes de Saburo Teshigawara, Ligne de crête de Magli Marin et puis un coup de cœur signé Florian Guettet.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute danse pour parler à présent de The Idiot, Saburo Teshigawara, présenté jusqu'au 5 octobre au Théâtre National de la Danse de Chaillot dans le cadre du Festival d'automne. L'idiot en question, c'est bien celui du roman de Dostoïevski dont Teshigawara dit « Je savais qu'il était impossible de créer une chorégraphie tirée d'un tel roman, mais cette impossibilité a été la clé pour approcher et créer quelque chose de complètement neuf, une danse qui existe seulement dans l'instant présent. » Le résultat, c'est un duo qui voit le chorégraphe qui signe également lumière, costume et collage musical, partager la scène avec une complice de longue date, la danseuse Ryoko Sato. Voilà un exemple de collage musical entre Debussy et Shostakovich. C'est un des collages réalisés par Teshi Gawara pour cette pièce des idiotes dont Florian Guettet commence à nous parler.
Alors,
pas emballé.
Alors emballé sur le début et puis finalement, c'est vrai que je trouvais que ça s'essoufflait un peu.
Ça dure qu'une heure pourtant.
Ouais, je suis un peu embêté parce qu'en même temps, j'ai trouvé ça très touchant. C'est ça vraiment très touchant, ce couple-là de grands danseurs qui maîtrisent véritablement leur art. Ils sont encore d'une grande agilité, d'une grande vivacité. Tout est très épuré, c'est-à-dire que le défi c'était quand même comment on peut passer d'un bouquin, on va dire prolifique, de Dostoïevski, une écriture quand même assez dense, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, à quelque chose d'aussi resserré, d'aussi minimaliste, hein, puisque là on est vraiment dans ce registre-là. La scène est épurée, la lumière est crépusculaire, on a une sorte de forme brumeuse, un rail de lumière à l'horizontale, et puis deux corps, d'abord le sien, et puis celui de sa partenaire qui va venir ressortir, etc. Et on va essayer, il va essayer en tout cas de condenser, alors non pas l'histoire, parce que c'est vrai qu'il le dit, il se prémunit, c'est pas narratif, etc., mais c'est quand même très expressionniste. Et donc on a deux types quand même, on a deux identités, cette identité de l'idiot sur laquelle il va un petit peu souligner le côté pathologique. Donc on a énormément de références à l'épilepsie, on a trois bonnes scènes de crises d'épilepsie, avec des crispations du visage, des convulsions, des sortes de d'hémiplégie, enfin une sorte de moitié de corps complètement paralysé. Donc voilà, ces scènes-là sont très illustratives, quoi. On voit bien ce qui se passe. Et entre les deux, ben, il y a une histoire de cet amour contrarié, de ces mondanités, de lui qui est donc penaud, timide, un peu malhabile, un peu malaisé. Et puis à côté, cette histoire d'amour avec cette femme élégante, beaucoup plus sûre d'elle, gracieuse, fluide, qui est voilà, avec une danse très 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 enlevée, très envolée. Mais en fait, une fois qu'on a vu la première rencontre, une fausse rencontre entre les deux, une sorte de valse déconstruite, ben finalement cette scène-là a tendance à se répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la mort de l'héroïne. Il y a pratiquement pas de progression, hein, on n'est pas dans quelque chose de... Donc mon ennui, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas ma lassitude, on va dire une forme de lassitude, s'est posée à peu près à moitié du spectacle. J'ai eu du mal à sortir de là. C'est agréable à voir, mais ça m'a laissé un petit peu froid.
Philippe Noisette, cet idiot vu par Saburo Teshigawara.
C'est vrai que ça fait un peu peur. Au départ, on se dit l'idiot de Dostoïevski. On connaît un peu le travail de Saburo Teshigawara et on a du mal à comprendre à quel moment la rencontre va se faire. Il a vraiment lu l'idiot. Il a digéré quelque chose. Je trouve que c'est assez intéressant, notamment la danse de Saburo Teshigawara n'est pas spécialement narrative, mais il évite quand même la pure narration. C'est plutôt des états du prince, des états de Nastassia. J'ai envie de dire que la narration, la vraie narration, serait peut-être ce collage musical qui, moi, m'a un petit peu gêné. C'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde y est. Il manque peut-être que la symphonie numéro 3 de Mahler et voilà. J'aurais vraiment envie de silence. C'est vrai que, par exemple, les scènes qui sont censées évoquer l'épilepsie du prince m'ont pas spécialement gêné. C'est plutôt le côté surligné de la musique qui est quand même un petit peu présent. C'est un choix de Saburo Teshigawara, c'est lui qui a fait le montage, tout comme les lumières qui sont assez belles. Il y a quand même un grand plaisir, c'est de voir un interprète aussi incroyable et de voir Ryoko Sato, qui est pour moi peut-être l'une des plus belles danseuses de cette époque, à l'égal de Louise Le Cavalier ou Anna Laguna, qui était assise à côté de moi d'ailleurs, je le cite. Mais c'est vrai que pour
quelle chance elle a eue.
Oui, je ne sais pas. Mais Ryoko Sato, c'est pour moi cette danseuse qui dessine une calligraphie dans l'espace du théâtre. Alors peut-être que ce duo, ce couple de danse hein, qui est vraiment remarquable, a fait que, à mes yeux, l'idiot est peut-être plus réussi qu'il ne semblait l'être au départ. J'ai eu quand même du plaisir à voir ces deux interprètes, même si la progression n'est pas là, même si la fin est un peu annoncée. Mais j'ai trouvé quand même une satisfaction qui est due à leur présence, assez rare.
Et Anna Segalevitch, alors, qu'a-t-elle pensé de cet idiot?
Mais moi, ça m'a plu, cet idiot.
Bon, on a une progression, en tout cas, dans la table ronde. Hein.
J'ai aimé cette naïveté, j'ai aimé la simplicité, j'ai aimé la non-narration, avec en même temps quelque chose de très naïf et de très enfantin dans la façon de raconter. C'est-à-dire que c'est extrêmement premier degré et raffiné en même temps. Mais c'est Teshigawara est très comme ça. Et en fait, je trouve que l'idiot, ça lui va bien, parce qu'il cherche pas du tout à raconter l'histoire, bien sûr. D'ailleurs, on peut y voir l'idiot parce que ça s'appelle l'idiot et parce qu'il y a effectivement le prince Mishkin qu'on voit clairement. Et les deux filles d'ailleurs, enfin, c'est une femme, mais c'est les deux personnages féminins qui traversent l'idiot. L'amour pour ces deux femmes, enfin, l'amour complexe pour ces deux femmes qui fusionnent en la personne de Ryoko Sato. Écoutez, moi je trouve que au départ, il y a ce halo de lumière tout doux comme le cœur du prince Mishkin, et je trouve que c'est doux comme ça tout le temps, dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le fait de chercher. C'est l'histoire d'un homme qui consacre sa vie à l'amour pour une femme. Il y a un moment donné où Ryoko Sato danse devant Saburo Teshigawara, donc elle danse et lui est quelques pas derrière et il s'enivre des effluves qu'elle trace. Vous parlez de calligraphie, Philippe. C'est exactement ça. On a l'impression qu'elle fend l'air comme ça de ses bras, de son port de bras, et qu'elle laisse un parfum totalement enivrant dans lequel on a envie de rentrer nous aussi. Et lui s'enivre de ça. Par exemple, ça, je trouve que c'est une scène absolument magnifique. Et oui, bien sûr, c'est très simple et c'est pas illustratif, mais on peut dire que c'est un tout petit peu littéral à certains moments. Mais moi, cette littéralité ne me dérange pas du tout parce que je trouve qu'il y a une émotion, une poésie qui se dégage de ça. Même le collage musical, vous avez raison, il y a tout. Il y a le quatuor, il y a la jeune fille et la mort, il y a une valse de Chopin, il y a la valse de Shostakovich, il y a la passion selon Saint-Jean de Bach, une aria. Enfin, il y a tout, en effet. Mais moi, j'aime bien la façon dont ça revient justement de façon naïve. C'est-à-dire qu'il colle une musique à une autre, il les tord, et puis ensuite, hop, ça revient. Et c'est comme une ritournelle, comme une rengaine, et la maladresse de cet homme, et ses crises d'épilepsie, et tout ça. Et moi, ça me parle, quoi. Je trouve que c'est beau.
Bon, flinguetté.
Non, je suis d'accord pour cette élégance-là, mais l'élégance, elle peut avoir un truc un peu lénifiant, toi.
Bon, on s'arrête là-dessus concernant The Idiot de Saburo Teshigawara jusqu'au 5 octobre au théâtre de Chaillot. C'est dans le cadre du festival d'automne également. Puis il y a d'autres spectacles Teshigawara qui tournent pas trop loin, notamment à Bruxelles, Vision au mois d'octobre dans les halles de Schaerbeek. Et puis en novembre, ce sera à l'Opéra National de Lorraine à Nancy qu'on pourra voir du 14 au 18 novembre Transparent Monster pour le ballet de Lorraine. C'est le moment du coup de cœur, et le coup de cœur ce soir est attribué à Florian Guettet, c'est lui qui le décerne. Donc Florian, vous avez choisi Gogemansi, je ne sais même pas comment ça se prononce à vrai dire. Est-ce que vous savez?
Gogemansi.
Je
n'ai aucune idée.
Le Y final me laisse penser à une sorte d'anglicisme quand même.
Vous avez raison.
Et ça veut dire quoi?
Alors c'est un néologisme qui veut dire à la fois la jauge, donc le fait de pouvoir estimer ou évaluer la force d'un corps qui vient faire pression sur le sien, et puis mansi, tout ce système de croyances imaginaires. Donc en fait ça associe à la fois, donc c'est un chorégraphe qui a fait beaucoup de recherches là-dessus.
Donc je n'ai pas rappelé le nom.
Ali Mohini.
Voilà.
C'est un chorégraphe, comédien et musicien iranien que j'ai découvert il y a peu, mais je m'en veux parce qu'en fait il tourne en France depuis 2009-2010. Il est venu, au départ il a appris la musique, il a appris la comédie dans son pays, et puis il est venu apprendre la chorégraphie à Lisbonne, au Portugal. Et depuis il a travaillé avec Le Pecky, Emmanuel Wynne, Mark Tompkins, Max Stuart, Loïc Touzé. Donc voilà, il a été quand même très productif ces dernières années. Et il a un travail solo, hein, le plus souvent solo, le plus souvent parce que c'est pas le cas pour cette pièce-là, où il étudie, où il éprouve, il expérimente ce qu'est danser sous la contrainte. Donc il avait fait un solo qui avait fait beaucoup parler de lui, qui s'appelait My Paradoxical Paradoxical Knives, où il dansait avec, donc il était bardé d'un harnais avec beaucoup de couteaux autour de lui, dans une sorte de danse giratoire, évidemment dangereuse pour lui, mais aussi pour les gens autour de lui. Et puis il en a fait plusieurs comme ça, où il était toujours contraint dans des sortes de dispositifs qui venaient normalement l'empêcher de danser. Et pour ce nouveau spectacle, il a décidé d'appliquer ce principe-là, mais au collectif. Donc, il va chercher dans des activités anthropologiques, religieuses, des professions, des rites de fertilité, par exemple, etc. Beaucoup de le travail du tissage, énormément, etc. Donc, des activités collectives où on se retrouve les corps contraints ou comprimés les uns contre les autres et où on doit faire un corps collectif avec les autres, en essayant toujours de faire attention à la pression qu'on exerce et la pression qui est exercée sur nous. Donc je trouve le projet vraiment vraiment intéressant. Il y a un deuxième aspect de cette pièce qui est assez nouveau dans son travail, c'est le travail du son, puisque ce sont que des activités où il s'est rendu compte que quand les corps étaient collectifs, eh bien ça s'accompagnait toujours d'une musique du collectif. Donc ça peut être des battements, des respirations, des forces en fait vraiment musicales ou sonore, qui vient de s'actualiser. Donc je suis très curieux. La première, en fait, a lieu demain. Donc moi, je n'ai pas encore vu le spectacle.
Demain, à la scène nationale de Saint-Brieuc, ouais, la passerelle.
Je n'ai pas encore vu le spectacle terminé, mais je suis très
impatient.
Curieux et impatient. Oui.
Alors, vous n'irez peut-être pas demain à Saint-Brieuc, c'est le 2 octobre. Vous n'irez peut-être pas au Manège de Reims, c'est le 6 novembre. Vous irez peut-être plus pratiquement pour vous, en tout cas du 9 au 11 novembre, au Centre Pompidou à Paris. Et puis, il y aura encore deux autres dates pour Georges Mancy, hein, je m'appuie sur votre prononciation. Les 15 et 16 novembre, ce sera cette fois à Bruxelles pour cette pièce d'Ali Mohini qui danse également dans cette nouvelle création.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et la dernière séquence de cette dispute danse, elle est consacrée à Ligne de Crête de Maggie Marin, qui se donne en ce moment et jusqu'au 6 octobre au Théâtre des Abbesses à Paris. Là aussi, d'autres dates en tournée. Et puis concernant Maggie Marin, dire qu'elle sera demain, mardi, l'invitée de la Grande Table, l'invitée d'Olivier Gesbert, demain, mardi 2 octobre, à midi. Dire aussi que vous avez passé une partie de votre samedi avec elle, Anna Sigalevitch, puisque vous avez enregistré sa masterclass pour France Culture, que moi j'ai écouté, il y a un grand public avec nous de façon très attentive. On l'entendra seulement à l'été 19. C'est comme ça les masterclass, on en enregistre toute l'année et elles sont diffusées tout l'été. Revenons à Ligne de Crête, spectacle qui a été créé à la Biennale de Danse de Lyon et qui propose sur une musique de Charlie Aubry une critique. On va en parler évidemment, une critique très virulente de la société de consommation. Elle disait à votre micro hier, Maggie Marin, ses lectures d'économiste Frédéric Lordon en tête, qui est évidemment présent dans ce spectacle, enfin en tout cas sa pensée. Six interprètes qui arrivent à leur poste de travail, qui sont dans des petits espaces, eux, très contraints, délimités, des cloisons en plexiglas, et puis durant toute la pièce, ils vont accumuler des objets de la vie quotidienne jusqu'à ne plus pouvoir bouger.
Un corps dominé est un corps qui a été déterminé à bouger et à se tenir d'une certaine manière. Le degré d'empressement, les gestes requis et exécutés, la tenue du corps, le ton de la voix. La peur de mourir, la peur de la misère, le désir vital d'accéder à l'argent, à la consommation, sont les rouages d'une domination capitaliste et néolibérale aux effets de pouvoir à géométrie variable, repérables aux échelles les plus fines de la société entière, dans les institutions, dans la famille, dans le couple, par le goût, le langage, les manières. Adéquatement affectés en vue de tel ou tel objectif, les corps sont saisis dans tous les replis de leur existence. Entre violence des institutions et violence des passions des hommes, voilà la ligne de crête sur laquelle se tenir debout devient un combat pour éviter la chute vers l'un ou l'autre de ces deux dangereux versants.
Alors c'est pas vous entendez l'écho, hein, c'est plutôt dans l'après-midi sur France Culture, mais c'est bien Maggie Marin et on parle de Ligne de Crête, sa dernière création en date. En ce moment aux Abbesses, puis le spectacle ira à Saint-Denis, à Montpellier, à Fontenay, Vesoul, Auch, Tarbes, Toulouse. Je vais donner les dates à la fin de cette séquence qui s'ouvre avec Philippe Noisette.
Si vous vous souvenez bien, on avait parlé de 2017, en ouais. 2017, la pièce précédente de Maggie Marin, et on avait quelques doutes un petit peu tous autour de cette, ouais. cette table. Et je crois que j'avais dit à un moment, j'attends la pièce suivante pour peut-être...
Oui, vous l'aviez dit, c'est vrai, je me souviens.
Alors, visiblement,
oui, si vous attendrez celle d'après.
Oui. Visiblement, c'est un diptyque. C'est pour ça que je me permets de m'autociter. Et c'est vrai que...
C'est peut-être un triptyque, voilà. Hein, on va peut-être en 2019.
On va voir, ça dépendra peut-être de ce qui se passe. Pour Maggie, c'est vrai que la pièce est de façon plus évidente, une pièce qui rencontre le public, parce qu'elle est faite de telle façon que on comprend où elle veut en venir, on comprend quels sont les moyens mis en œuvre, et pourtant il se passe quelque chose, un petit dérèglement, la petite mécanique justement de ces corps qui vont accumuler, qui portent des cartons et autres, qui s'installent dans un espèce d'open space qui n'a rien de d'open et qui est une espèce de prison transparente. Je l'ai vu à la Biennale de Lyon, donc à le théâtre de Villeurbanne, la petite salle. J'ai vu que le public était saisi, ce qui n'avait peut-être pas été le cas pour 2017. Le public était vraiment concentré, aller avec eux mentalement. Il y avait un cheminement qui était partagé entre le public, l'assistance et les personnes sur scène. Moi, j'ai été assez emballé par cette création de Maggie Marin, qui est toujours révoltée, qui est toujours énervée, qui a des choses à dire. Quand elle dit où en est le désir des gens, c'est vrai qu'elle tente d'apporter une réponse. Ce n'est pas nouveau qu'elle se nourrisse de textes. En général, c'est plutôt des textes littéraires, quoique. Mais je trouve que ce qu'elle digère et ce qu'elle produit me parle vraiment. Et dans une époque où la danse n'est pas très politique, hein, je vois de moins en moins de spectacles, notamment à la Biennale de Lyon, j'ai vu assez peu de pièces qui essayaient comme ça d'empoigner le réel, la société et autres. Ça m'a fait du bien, je dois dire.
Anna Segalevitch.
Alors, moi, c'est vrai que j'étais quand même très partagée l'année dernière par 2017. J'étais très réservée même, je peux dire, sur 2017. Et alors, elle parle de continuité. Mais oui, continuité, et c'est là où Philippe avait raison l'année dernière quand il nous a dit « Mais attendez, voyons la suite ». Mais pour moi, dans 2017, elle nous écrasait. Et il y avait quelque chose de binaire dans sa façon de mettre en place le lien de cause à effet. À cause de ça, il nous arrive ça. Et je trouvais que du coup, le spectateur n'avait pas de place pour réfléchir, pour penser, pour imaginer, enfin pour se faire son propre parcours. Or, dans cette création, qui est très simple, qu'on peut dire qui est aussi basique dans sa dramaturgie, hein, une succession de personnages qui entrent en scène et qui accumulent des choses, ça dure une heure, avec cette bande-son qu'on a entendue, où les infrabasses deviennent de plus en plus puissantes, etc. Donc, c'est très simple, mais bizarrement, le fait de mettre les choses à plat, comme ça, eh ben, ça nous permet, nous, d'y voir et de nous raconter beaucoup, beaucoup plus d'histoires qu'avec, à mon sens, 2017. On pense aussi à d'autres pièces de Maggie Marin en voyant ce spectacle. On peut penser à Umwelt dans la répétition des gestes comme ça du quotidien. On peut penser à Face aussi, qui était aussi une critique de consommation, société écrasée comme ça de masse. Donc, tout ça est tout à fait cohérent et tout à fait logique. Là, ce qui se met en place, je trouve, dans ce spectacle, c'est en effet cette accumulation dans ces cages, dans ces blocs de verre, dans ces cabines de verre. C'est à la fois la transparence et l'opacité que ça génère. C'est-à-dire que vont être convoquées en scène plein de choses différentes. Hein, on va avoir le portrait de Freud, on va avoir le portrait de Marx, on va avoir le portrait de Zidane, on va avoir la carte de l'Union européenne, et puis énormément de choses du quotidien, d'éléments de vie courante, de la consommation, c'est-à-dire des packs d'eau tout le temps, du lait, et les interprètes mangent aussi tout le temps. Donc on a tout ça, et on a ces corps qui vont devenir de plus en plus entravés, donc là on peut dire aussi qu'on pense à Maybe bien sûr, et le fait de se créer soi-même sa propre prison. C'est-à-dire que pendant une heure, on assiste à des gens qui sont eux-mêmes les acteurs de la prison qu'ils construisent autour d'eux.
Florent Guettet, sur cette ligne de crête de Maggie Marin.
Je rejoins mes camarades. J'ai trouvé la radicalité du geste très intéressante, beaucoup plus que dans 2017, même si effectivement on voit la continuité quand même dans le propos, en tout cas dans ce qu'elle vient apporter. Je trouvais que ça donnait de la lisibilité et qu'effectivement, nous en tant que spectateurs, on se retrouve plus à canaliser ou à focaliser notre attention sur des personnages particuliers, mais vraiment sur une situation d'ensemble. Et on vient localement déchiffrer les signes qu'elle accumule devant nous. Donc effectivement, il y a des signes complètement dérisoires. Il y a des guirlandes, une boule à facettes, un truc très festif sur voilà, cette performance sociale qui est un peu carnavalesque, etc., qu'on avait déjà dans 2017. Et puis des choses plus politisées, donc Marx met en face de Keynes pour voilà, une sorte d'affrontement des blocs économiques, etc. Moi, je trouve que cette absence de progression, elle est intéressante parce qu'effectivement, elle vient même créer chez nous une forme d'ennui, hein, faut le dire aussi, une forme de voilà, on est nous-mêmes dans une forme de gêne déjà par le volume sonore hein, de cette photocopieuse qui n'arrête pas et on a l'impression au bout d'un moment qu'elle nous parle tellement elle revient. Il y a une forme d'ennui, je disais, mais aussi de saturation. Hein, même nous, on commence à fatiguer aussi l'œil au bout d'un moment, qui est à la mesure finalement de la société qu'elle décrit. Là où je trouve que ça pêche, malgré tout, c'est sur ce constat. Moi, je veux bien qu'elle se réfère à leur nom, elle a raison, elle se réfère surtout à un livre de 2010 qui est Capitalisme, désir et servitude. Sauf que depuis 2010, finalement, les choses bougent. Et ça m'a fait un peu la même impression que de 2017 avec, en me disant, oui, Guy Marin, c'est bien, mais ça vient un petit peu 10 ans après la guerre. C'est-à-dire que je trouve que ce constat de la surconsommation, même si effectivement c'est pas la même surconsommation dans les années 2000 que dans les années 60, c'est un petit peu dépassé dans la mesure où, même si on n'est pas arrivé sur la déconsommation, les indices montrent que nous consommons moins et qu'en plus on consomme autrement. C'est-à-dire qu'on ne consomme plus vraiment des biens matériels, on consomme des informations, des biens immatériels. Et ça, cette représentation-là, je trouve qu'elle est abordée, il y a des allusions, on les voit river par exemple sur leur téléphone portable, on va dire pendant le premier quart d'heure de la pièce, mais elle n'en fait rien de plus. Alors que ça me semble être justement aujourd'hui un des enjeux de la surconsommation, de ce qu'on peut appeler la surconsommation. Donc j'ai trouvé quand même le constat un petit peu simple pour une forme qui est elle-même simple, mais était capable d'en accueillir beaucoup plus.
Ouais, je trouve un peu dur cette question-là de la surconsommation, parce que je pense qu'on en est, on est loin d'en être sorti, et que le on dont vous parlez, je sais pas qui est le on, mais enfin à l'échelle planétaire, la question se pose.
On parle de désir. Oui, très bien. On parle de désir. On parle de désir aujourd'hui, de comment on capte l'attention et comment on capte nos désirs. Alors effectivement, on sait très bien que les vitrines continuent à nous attirer, etc. Mais aujourd'hui, notre désir, notre attention, ils sont captés par plein d'autres choses autres que les désirs matériels. Et que là, d'avoir cette sorte de surmatérialisation, j'ai pas trouvé que c'était forcément très cohérent avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Non, mais par rapport à ce que disait, je reviens là-dessus, ce que disait Philippe Noisette, moi je vois, loin s'en faut, pas autant de spectacles de danse que vous, mais sur l'absence du politique scène. Là, on peut reconnaître à Maggie Marin.
Oui, tout à fait.
Vous partagez ce constat.
Oui, et puis ce qui est exposé, bien sûr, c'est la consommation, etc. Mais d'ailleurs, moi je trouve que c'est même intéressant qu'il y ait un côté un petit peu daté, parce que plus rien n'a de sens quand on voit des croquettes friskies avec des packs de 7-Up. On se dit, mais où on est? Dans quelle histoire on est? Tout ça est tellement dérisoire. Et moi, je trouve que justement, c'est intéressant, ça. Parce que ça raconte une société qu'on pourrait déplacer à plein d'époques, à plein de périodes, dont les enjeux, pardon, mais je pense qu'ils sont quand même encore là. Et ce qu'elle expose surtout, c'est l'inertie et la déshumanisation. Donc
oui, mais qui est là. Enfin, on en parle quand même depuis 20 ans, théoriquement.
Oui, mais c'est toujours là, quand même, etc.
Bien sûr que c'est toujours là, quoi. Mais simplement, il y a une. Elle dit quand même dans ses interviews, ce désir de consommation n'a jamais été tel quel. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est un petit peu trop pour ancrer dans une actualité. Alors, ou alors qu'elle assume le fait d'être un peu inactuelle. Moi, en tant que Nietzschean, j'aurais adoré.
N'oubliez pas, c'est une parole très occidentale. Je pense qu'accéder à la consommation, c'est nouveau chez les Chinois maintenant depuis quelques années, chez les Indiens. Moi, je pense que plutôt que la consommation, c'est la saturation.
Oui,
vous parliez
ça,
de vitrine, pour moi, la plus grande vitrine actuelle, c'est pas celle des Galeries Lafayette, c'est plutôt celle d'Instagram. Et il y a une chose qui se rejoint, même si je pense qu'elle n'a pas Instagram en tête, mais vous regardez Instagram, tout se mélange et vous avez une espèce d'accumulation. C'est pas les croquettes friskies, mais c'est. On pourra en parler un jour par rapport à la danse. Je vois des images de danseurs et de danseuse sur Instagram qui m'affole, qui lève la jambe en permanence et qui ne rêve que d'une chose élastique qui est effectivement digne du cirque ou autre. Et je trouve que la saturation, elle est dans le spectacle, qui plus est dans une forme très... C'est une heure de spectacle, ouais. Avec très peu de gens sur scène, énormément... Alors j'aimerais quand même que Maggie Marin nous dise comment ça se passe en coulisses, comment on fait pour accumuler tout ça, est-ce que c'est dans comme les coulisses des grands magasins. Ça il faudra lui demander peut-être demain, si elle nous écoute, si elle nous écoute,
à la régie des abbesses, ils ont hâte que ça se termine, non, je plaisante bien évidemment. Mais pour revenir sur un mot qui avait été employé tout à l'heure pour Tashi Gawara, là je trouve que en ce qui concerne Ligne de Crête, la littéralité a du bon, parce qu'il y a une sorte d'efficacité.
C'est frontal, voilà. Absolument.
On est d'accord?
Ah oui, complètement. Oui. C'est honnête, c'est frontal, c'est basique. Hop, elle nous met ces cabines qui sont à la fois transparentes et comme des miroirs. Voilà, on ne voit plus rien. Tout est empirique. On ne comprend pas comment ça. Enfin, voilà, il y a plus de rapport au vrai et au sens. Enfin, le sens est perdu par l'accumulation des choses. Et ça, on le ressent très fort, je trouve.
Oui, puis ce que deviennent aussi, parce que finalement l'intervention chorégraphique est assez minimale, hein, c'est organiser les déplacements, de temps en temps 2-3 coins de synchronisation, et puis surtout une image comme ça de l'accoutumance et du fait d'être drogué à la consommation, avec des tocs, avec des sortes, on se gratte de partout, on a des sortes de compulsions aussi, hein, comme on avait d'ailleurs dans The Idiot. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de s'arrêter de se retrouver face à cette représentation spéculaire, quoi, ce miroir. De nous-mêmes, quoi, de ce que l'on est et qu'on ne veut plus voir de nous, quoi.
On va pas lancer le grand débat maintenant, mais ça pourrait faire l'objet d'un petit salon sur l'absence du politique dans la danse et le trop-plein peut-être au théâtre.
Au théâtre, absolument, c'est ce que j'allais dire.
Il y a un miroir intéressant, ouais. Mais vous, par exemple Philippe Noisette, qui évidemment parlait beaucoup, beaucoup avec des chorégraphes de tous horizons et toutes générations, comment vous expliquez ce recul de la question du politique?
Je suis un peu interdit. Paradoxalement, j'en ai parlé cet été avec Raymond Hogg, qui ne paraît pas le chorégraphe le plus politique, même si dans certains spectacles, comme notamment l'un de ses derniers spectacles, où il avait pris comme matière des lettres écrites par des jeunes migrants qui sont morts, qui s'étaient glissés sous un avion en espérant gagner l'Europe. Et il me disait cette chose-là, il me disait, mais si on ne le fait pas alors qu'on traite tout le tour du corps, la question du corps, et si les chorégraphes ne le font pas, qui va le faire? Alors visiblement, plutôt les gens de théâtre actuellement, mais je me questionne. Je trouve important que Maggie continue, et je trouve dommage qu'il n'y ait pas derrière Maggie il y a des gens qui essayent, mais je sens quand même que c'était pas leur propos premier voulu.
Florian Gaité.
Ouais, mais ça pose la question vraiment de savoir aujourd'hui ce qu'on peut dire juste avec le corps et sans rentrer dans le discours. Est-ce que la politique, c'est pas aussi une question de discours? Est-ce que c'est pas plus facile, en fait, par ce canal-là? Après, voilà, il y a toute une génération, les Belles, etc., qui ont travaillé sur ce corps politique et qui continuent à le faire d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai posé la question à Teresa Kersmaker sur l'écologie, parce qu'elle est très engagée dans l'écologie, et elle a fait une pièce qui est Keeping Still, qui est vraiment là-dessus. Et elle me disait, mais moi, je peux que partager mon inquiétude, et c'est déjà pas mal. Je peux que sensibiliser. Lisea, je suis pas là pour être le porte-parole en fait d'un combat.
Un dernier commentaire, Anna Segalevi, sur cette question, parce qu'au théâtre on n'en manque pas, hein, de pièces qui se veulent politiques.
Ouais, veulent. C'est ça. Mais peut-être qu'on a aussi un petit peu quelque part épuisé en fait le corps dans tout ce qu'il a de politique, le corps dénudé, le corps rhabillé, le corps
malmené, le corps contraint,
On a vu beaucoup ça et donc il y a peut-être quelque chose à réinventer différemment, je pense, pour le corps. Et là, c'est souvent comme ça, le théâtre répond à la danse, la danse répond au théâtre. Moi, je pense qu'on est arrivé à quelque chose un peu au bout, là, au théâtre. Ouais. Et que peut-être que la danse va
prendre un peu cycles. Il y a des grands cycles qui nous dépassent largement, qu'on peut constater le plus souvent a posteriori. Enfin, voilà, ça nous fait parler de tas de choses, cette Ligne de Crête de Maggie Marin, et c'est quand même une de ses bonnes qualités, le spectacle qu'on peut voir jusqu'au 6 octobre au Théâtre des Abbesses à Paris, ensuite du 12 au 14 octobre au Théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis, 6 et 7 novembre au Cédène de Montpellier, le 30 mars à Fontenay-en-Seine, 4 avril Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, 9 avril au Dôme de Gascogne à Auch, le 11 avril au Parvis, scène nationale de Tarbes-Pyrénées, et puis du 22 au 24 mai, Ligne de Crête de Maggie Marin au Théâtre Garonne à Toulouse. Et pour pour conclure cette dispute, la visite quotidienne de Sarah Dion, qui amène les questions et les réponses aussi du jeu de la dispute. Questions et réponses de la dernière émission en date, en l'occurrence vendredi. Sarah,
quel est le nom de l'archipel dans lequel se situe l'île de Java?
Et la réponse était
l'archipel des grandes îles de la Sonde.
À gagner ce soir, des invitations pour les ateliers du goût Slow Food, conférences et dégustations. C'était au Food Forum de Nantes, 6 et 7 octobre. Quelle est la question, Sarah?
Dans quel pays le mouvement Slow Food a-t-il vu le jour?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page de la dispute. Et quand vous allez sur le site et sur la page, vous vous abonnez en même temps au podcast de la dispute. Demain à 19h, une dispute musique avec Emmanuel Dupuis, Charles Ardenne et Laurent Burry. Nous parlerons de Bérénice de Michael Jarel, dirigée par Philippe Jordan, mise en scène Klaus Gutz. C'est une création mondiale au Palais Garnier à Paris. Les Huguenots, Giacomo Meyerbeer, dirigé par Michele Mariotti, mise en scène Andreas Kregenburg. C'est à l'Opéra Bastille. La flûte enchantée de Mozart, dirigée par Antonello Manacorda et Blaine Glasker, mise en scène Romeo Castellucci, qui était à la Monnaie de Bruxelles et qui est disponible en ligne sur Arte Concert. Et puis coup de cœur de Charles Ardenne pour le concours Voix Nouvelle.